franceinter.fr.
Et une étrange étoile qui n'en finit plus d'exploser. Normalement, lorsqu'une grosse étoile arrive à court de carburant, elle s'effondre sur elle-même, finit dans une explosion très brillante. Ce phénomène appelé supernova dure en moyenne une centaine de jours. Mais la supernova dont on va vous parler aujourd'hui pourrait bien durer depuis plus de 50 ans maintenant. Une bizarrerie donc à la une, Axel Villard.
Oui, et on en discute avec Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui a mené l'enquête depuis une semaine auprès des scientifiques. Alors Philippe, cette étoile, on l'observe exploser depuis combien de temps?
Eh bien, on l'a observé en septembre 2014. Mmh. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que, en quelque sorte, elle explose encore aujourd'hui. Elle se trouve dans une galaxie qui se trouve à peu près à 500 millions d'années-lumière. Ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est quand même un univers relativement proche. C'est contemporain. Et donc, ça fait à peu près 3 ans qu'elle n'arrête pas de réexploser, si vous voulez. Il y a des pics de luminosité qui sont comme ça observés, puisqu'on la surveille. Et donc, notamment, ces pics de luminosité sont plus puissants, beaucoup plus puissants que ceux d'une supernova classique. Et donc, ça pourrait même être au passage la plus puissante supernova jamais observée. Alors, cette étoile est au moins 50 fois massive comme le Soleil, 50 fois la masse du Soleil. Et la curiosité dans l'affaire, c'est qu'on s'est aperçu, les astronomes de l'université de Santa Barbara aux États-Unis, en Californie, qui ont publié leurs résultats, se sont aperçus qu'elle avait déjà été observée, cette supernova, en 1954. Ça veut dire qu'en 1954,
elle
sur une photo,
déjà.
Il y avait une photo de l'explosion de la supernova.
Ouais.
C'est au même endroit. Les astronomes qui étudient l'affaire savent que c'est la même étoile. Et donc, il y a une question qui se pose à eux. Comment une étoile peut-elle exploser plusieurs fois en supernova, puisqu'a priori, quand on explose une fois, on n'existe plus.
Ouais, et ça fait 50 ans que ça dure.
Et ça fait, a priori, 50 ans que ça dure, avec peut-être d'autres explosions entre-temps qu'on n'aurait pas vues.
Mais une supernova classique, ça se passe comment?
Ben, l'étoile s'effondre sur elle-même à la fin de sa vie. Il y a un mécanisme physique complexe qui fait qu'en fait il y a une espèce de rebond. Toute l'enveloppe de l'étoile est expulsée dans l'espace. Ça fait un flash de luminosité qui dure et qui diminue au bout d'une centaine de jours en moyenne. Et puis après, il reste au centre soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, un objet très dense, qui n'est plus observable parce qu'il est tout petit, ou quasiment pas du tout lumineux. Et donc, il n'y a plus d'étoile, si vous voulez. C'est un cadavre stellaire qui reste.
Est-ce que les auteurs qui publient ces observations émettent des hypothèses, ont des théories concernant cette étoile?
Alors, ils ont une hypothèse qu'ils privilégient. Ils imaginent comme si c'était une étoile très, très, très massive. Quand même, c'est parmi les plus massives qu'on connaisse. Ils imaginent que le cœur aurait chauffé tellement qu'il aurait converti une partie de son énergie en matière et en antimatière, et que la rencontre des deux, qui est, comme on le sait, est assez explosive, aurait fait ces phénomènes à répétition, en chauffant plusieurs fois l'enveloppe, etc. Mais ce processus, qui aurait pu se répéter sur plusieurs décennies, pose quand même des problèmes. Normalement, c'est cela pourrait arriver, mais sur des étoiles qu'on appelle de première génération, avec juste des éléments légers, donc au début de l'univers. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la galaxie n'est pas si lointaine, donc c'est l'univers contemporain. Donc, a priori, ces étoiles ne sont pas faites de la même matière, donc ça ne devrait pas arriver. Mm-hmm. L'énergie libérée aurait dû être bien moins importante. Et puis, en plus, on a décelé dans la dernière des explosions de l'hydrogène. Or, il aurait dû être expulsé puisqu'il se trouve en surface de l'étoile et on ne devrait pas le voir.
Jean-Philippe Puzan, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette supernova qui n'en finit pas de mourir?
Là, c'est génial, j'avais pas suivi cette information, parce que c'est pas mon sujet de recherche exactement, donc on peut pas suivre toute la littérature du domaine, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que, juste en entendant ces informations, on voit qu'il y a un vrai mystère, là, derrière ce truc, parce que simplement, quelques règles de trois sur la conservation de l'énergie, quand on connaît l'évolution stellaire typique, on voit que c'est pas un phénomène qui est possible. Il y a des échelles de temps entre, finalement, les temps pour d'effondrement d'une étoile, les temps d'explosion et les temps d'évolution. Alors, c'est vrai que 50 masses solaires, c'est une étoile qui va être peut-être 50 fois, une durée de vie 50 fois plus faible que ce que le Soleil lui-même, puisque plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. Mais on n'est pas sur des échelles de temps qui sont de quelques dizaines d'années. Donc là, on voit qu'il y a un vrai mystère. Cette histoire de matière et d'antimatière, j'y crois pas trop comme ça, juste au doigt mouillé.
Vous n'êtes pas le seul, parce que j'ai quand même essayé de poser des questions à des scientifiques, et je suis allé sortir un chercheur qui est un peu spécialiste de ces choses bizarres qui se passent sur les étoiles, et qui en 2002 avait résolu un problème qui avait vu la première collision d'étoiles. Mm-hmm. C'est Noam Soker, qui est de l'université Technion en Israël, et il s'est penché là-dessus. Il a un papier en préparation sur ce cas. Il connaît bien toutes ces choses-là. Et en fait, lui, il dit que ça matcherait mieux avec le rapprochement d'un trou noir massif qui serait rapproché de cette étoile qui orbite, qui serait rentré dans l'enveloppe de l'étoile en 1954. Donc il y aurait déjà eu du barouf, si vous voulez, et qui, parce que le trou noir c'est assez compliqué, il y a des jets le long de ces axes polaires qui peuvent percuter la matière de l'étoile, ferait des choses périodiques, ce qui semblerait aller beaucoup mieux avec quelque chose de périodique si on fait intervenir un deuxième corps plutôt qu'un corps tout seul qui a priori n'a pas de méthode pour pulser comme ça ou pour avoir des explosions à répétition. Donc c'est quand même à suivre, mais c'est peut-être une piste intéressante, alternative avec celle des chercheurs qui ont fait les observations, qui semble presque plus crédible.
Bon, c'est vraiment l'étoile mystérieuse.
Ah, c'est l'étoile mystérieuse. On attend, je vous tiendrai au courant.
C'est celle-là, absolument. On va suivre le dossier de très près, grâce à vous Philippe Hénarejos. On peut retrouver les infos dans Ciel et Espace.
Ah ouais, vous en aurez, je vais continuer l'enquête.
Ah bah allez, cielespace.fr en particulier. Merci, bon week-end Axel.
Et à lundi.
Et à lundi. Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la SPA, la Société Protectrice des Animaux, qui lance une grande offensive judiciaire pour défendre les droits des animaux. Corrida, chasse à cour, abattage cruel, expérimentation ou encore animaux de cirque. L'association prévoit d'attaquer une à une toutes ces pratiques qu'elle estime barbares. Le but avancé étant d'ouvrir un large débat public et parvenir à l'évolution de la législation. Par deux fois dans le passé, la Terre a été complètement recouverte de glace. Il y a 700 et 650 millions d'années, ces périodes géologiques appelées épisodes de terre-boule de neige sont débattues depuis 35 ans par la communauté des scientifiques. Des chercheurs du CEA publient cette semaine une synthèse des travaux sur le sujet, apportant des explications notamment sur la fonte de ces glaces qui était certainement rapide. Une fois la Terre couverte de glace, le carbone s'est accumulé dans l'atmosphère, créant un effet de serre record et donc un réchauffement rapide. De nombreuses périodes interglaciaires ont suivi ensuite jusqu'à une débâcle totale. Et puis les moutons sont capables de différencier les visages aussi bien que nous. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont entraîné avec succès des moutons à reconnaître des visages humains. 8 femelles sont parvenues à reconnaître et différencier les visages d'acteurs et d'hommes politiques pour obtenir des récompenses. D'autres tests ont permis d'établir que les capacités de reconnaissance faciale de ces animaux sont similaires à celles des primates et des humains. Des travaux originaux qui pourraient nous aider à mieux comprendre certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington ou celle de Parkinson et testée de nouveaux traitements. On parlera des gènes de l'intelligence justement dans un instant, mais pas celle des moutons.